France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les élections municipales, une bataille après l'autre, celle du deuxième tour s'engage. Ce sera dimanche, va-t-elle intéresser les Français ? Très forte abstention hier, reportage dans un instant. Nous allons prendre le temps ensemble pendant une heure de revenir sur les résultats d'hier, de dresser les grands équilibres poussés du Rassemblement National. Nous serons à Marseille, de la France Insoumise, nous irons à Saint-Denis, au nord de Paris. Et puis les dernières infos sur les discussions du matin. Bonjour Victoria Coussa.
Bonjour.
Et elles sont très vives.
Oui, les téléphones en surchauffe avec des candidats et des partis qui font monter les enchères à gauche et pas mal d'alliances depuis ce matin.
Les dernières informations également à Paris et Lyon, à Toulouse. Fusion des listes de gauche pour faire tomber la droite, le candidat insoumis qui va porter cette liste, François Piquemal, sera avec nous. Nous serons aussi à Clermont-Ferrand, la droite en tête du jamais vu depuis plus de 60 ans, la droite qui s'impose dans nombre de villes moyennes malgré la concurrence du RN, et on en parlera avec le maire de Saint-Dizier en Haute-Marne, réélu hier. Et puis j'attends vos appels pour nos invités, pour réagir, pour intervenir. 01 45 24 7000 pour être avec nous à partir de 13h30 dans ce 13-14 spécial. À suivre encore, comment limiter la hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient ? Les Européens cherchent des solutions. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy, qui débute dans quelques minutes, c'est le financement libyen de sa campagne de 2007 qui est en cause. Et puis les étoiles du guide Michelin dévoilées ce soir. Qu'est-ce que ça change d'avoir une première étoile ?
En réalité, ce qu'on a vécu avec l'étoile Michelin, ça vous propulse dans un truc qui est stratosphérique. Les gens, ils demandaient des photos, des signatures, mais tous les jours.
Les étoiles de la gastronomie qui deviennent des stars, reportage dans une vingtaine de minutes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Avant d'en venir aux résultats des élections municipales, négociations du matin et projections vers le second tour de dimanche, parole à ceux qui n'ont pas voté. Hier, 44% d'abstention selon l'estimation de notre partenaire Ipsos BVA saisi. Un record si l'on accepte le vote sous Covid d'il y a 6 ans. À Grigny dans l'Essonne, 51% d'abstention il y a 12 ans, 65% hier. Reportage ce matin, Laurent Kramer.
On vient d'avoir le résultat, j'étais au café là, tu sais, j'ai un de mes amis qui était au dépouillement, il nous a ramené le résultat.
65% d'abstention, c'est un record pour la ville de Grigny, et Fabienne n'en revient pas.
Le bureau 3 par exemple, 30% de votants, c'est pas normal. C'est pas normal.
Bernard est donc venu dans ce bar PMU avec tous les résultats bureau de vote par bureau de vote et le constat est sans appel.
Moi je suis dans le 7e là, quand je vois qu'on est 994 inscrits et il n'y a que 329 personnes qui ont voté, c'est choquant quoi, je veux dire, moi je suis déçu quoi, quand même. Quoi.
Personne, les vieux là, qui sont à côté de chez nous, là, tous ceux qui, il n'y en a pas un qui a été voté. Et moi, dans mon coin, j'ai dû être de un ou deux sur toute la cage d'escalier.
Le maire sortant a donc été réélu ici à Grigny avec à peine 35% de participation. Des aveux cinglants pour ces élections municipales, estime Fabienne.
Depuis quelques années, on va aller plus voter pour les présidentielles, par exemple. À Grigny, même si le temps d'abstention est quand même énorme, quand même à Grigny, il est moindre que pour les élections municipales. Les gens, ils attendent plus les présidentielles. On a l'impression que c'est le président qui va tout changer, en fait.
Des municipales perçues comme sans aucun enjeu pour les habitants, se désole Fabienne, dans cette ville de 25 000 habitants.
Laurent Kramer à Grigny pour France Inter. Alors dans 93% des communes du pays, les jeux sont faits. 31 millions d'électeurs connaissent déjà leurs conseillers municipaux, puisqu'une seule ou deux listes étaient en lice hier. C'est le cas, par exemple, dans l'ensemble du département de la Mayenne, où il n'y aura aucun second tour. Tout autre scénario dans les grandes agglomérations, à commencer par Marseille. Le maire socialiste Benoît Payan vire en tête, mais il est talonné par le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio. 35% des suffrages, c'est 15 points de plus qu'il y a 6 ans. Bonjour Lise Rosveil.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Marseille, vous êtes allé ce matin à la rencontre d'électeurs du Rassemblement National.
Dans le 8e arrondissement, oui, quartier chic, qui a voté à 40% pour Franck Alizio. Installé en terrasse, Jackie, gestionnaire de fortune, veut transformer sa ville.
La saleté, la crasse, tout Marseille est pourri maintenant. J'espère qu'il aura la prétention de relever Marseille.
À la table d'à côté, lunettes de soleil et veste en cuir, Rachel a toujours voté droite traditionnelle. Hier, elle a basculé.
c'était plus pour la sécurité, parce que je me suis invitée plusieurs fois. Le soir, on ne peut pas trop sortir.
Dans ce quartier, ancien fief du maire Les Républicains Jean-Claude Gaudin, Franck Alizio, ancien UMP, a réussi à rassurer.
Je pense pas qu'il soit ni raciste ni quoi que ce soit. Hein. C'est pas très RN, c'est plutôt plus de droite.
Les électeurs ici ne crient pas victoire. Ils attendent un geste de la candidate de droite Martine Vassal qui garde le silence. Et même s'ils ne fusionnent pas, j'ai peur des tambouilles à gauche, soupire un autre.
Ça, c'est côté droite et extrême droite. Lise, de l'autre côté, à gauche, pas d'accord au second tour entre les socialistes et les insoumis.
Oui, Benoît Payan, le maire sortant socialiste, a déposé sa liste en fin de matinée. Tout cela mis en scène, à pied, entouré de ses 8 candidats des mairies de secteur. Il coupe court à tout accord avec l'insoumis Sébastien Delogu. « Je ne fais aucune tambouille, le combat contre le RN ne se monnaie pas », répète-t-il, tout en mettant la pression sur Sébastien Delogu, qui a toujours la possibilité de se retirer. Le maire sortant fait le pari qu'une partie des électeurs insoumis se tournera de toute façon vers lui pour faire barrage au RN. Une partie aussi de l'électorat de la candidate de droite et du centre, Martine Vassal. C'est irresponsable, réagit un membre de l'équipe insoumise. Il méprise nos électeurs. Le peuple est pour la fusion. Pas d'accord à gauche, est-ce une bonne nouvelle pour le RN ? Pas de commentaire chez Franck Alizio. Ses équipes restent prudentes, craignant jusqu'au bout des retournements de situation.
52% de participation à Marseille hier, moins que la moyenne nationale. Merci Lise Roseveil. En direct de Marseille avec les moyens techniques d'Éric Audra. Le Rassemblement National, nous en parlions à l'instant, pour la première fois au second tour dans la ville de Lannion, dans les Côtes d'Armor. Le RN deuxième à Saint-Étienne, où il réalise le meilleur score de son histoire, 20%. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Chef du service politique de France Inter. Le RN progresse, on le voit, à Marseille, mais pas seulement. Ce qui ne veut pas dire, Maxence, que ce sera suffisant pour décrocher des victoires marquantes dimanche prochain.
Tout à fait, oui. Ce qu'on a vu hier soir, c'est la confirmation d'un socle électoral puissant, toujours de quoi se qualifier au second tour de la présidentielle. Mais il n'y avait pas hier, comme au premier tour des législatives il y a deux ans, 9 millions d'électeurs RN. Pour deux raisons. Parce que dans leur ville, ils ont fait un autre choix. Le maire sortant, la liste de droite. Et c'est ainsi qu'à Carpentras, Carcassonne, Castres, Menton, le RN n'arrivera sans doute pas à l'emporter dimanche. Et c'est déjà fini. À Calais et Lens, par exemple, car c'est resté un scrutin local. Et puis, deuxième raison, l'absence de liste RN, tout simplement. 9 départements dépourvus, dans le Maine-et-Loire, une seule liste éliminée dès hier. L'enracinement est loin d'être terminé. À Nice, est-ce l'union des droites qui a marché, ou plus simplement la droite niçoise qui s'est retrouvée chez Éric Ciotti dans la lignée de Jacques Médecin et Jacques Perra. Le RN est arrivé en tête hier soir dans une soixantaine de communes, dont Montargis, Montauban, Tarbes, Amnéville, Châtellerault, Vierzon, la flèche où était Marine Le Pen jeudi. Elle est soulagée de voir ses maires sortants réélus dès le premier tour. La preuve qu'à Perpignan, le mandat sans éclat de Louis Alliot a suffi. Pas besoin de transformer sa ville pour y rester.
Merci Maxence Lambrecq. Je vous garde. On rentrera dans le détail. Un peu, je veux bien. Un peu plus précisément des résultats de ce premier tour des municipales 2026. Illustration des limites du RN dont on parlait à l'instant. Paris, 1,5% pour son candidat dans la capitale, Thierry Mariani. Mais ce qu'on retient à Paris, c'est l'écart entre le candidat socialiste Emmanuel Grégoire et sa rivale de droite, Rachida Dati. 12 points à remonter pour l'ex-ministre de la Culture, qui se tourne donc maintenant vers le candidat du centre, Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes précisément devant le QG du candidat Horizon, c'est-à-dire le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Pierre-Yves Bournazel, 11% hier, a une très grosse pression pour se rapprocher de Rachida Dati.
Oui, à commencer par son chef, donc Édouard Philippe, qui, souvenez-vous, avant le premier tour déjà, avait sèchement désavoué Pierre-Yves Bournazel, qui plaidait pour le « ni Dati, ni Grégoire ». Nouvelle salve, deux fois hier soir et encore ce matin au téléphone. Depuis Le Havre, Édouard Philippe demande à Pierre-Yves Bournazel de négocier une fusion de liste avec Rachida Dati pour battre la gauche. Le patron d'Horizon y voit un intérêt évident pour rassembler la droite l'an prochain à la présidentielle. Et c'est même remonté plus haut encore, puisque Emmanuel Macron en personne a demandé hier à Édouard Philippe d'aller dans ce sens. On sait que le président soutient de longue date la candidature de Rachida Dati dans la capitale. C'est même pour ça qu'elle était entrée au gouvernement. Ou alors, question. Pierre-Yves Bournazel peut-il résister à ces pressions politiques ? Le quatrième homme de ce premier tour à Paris fait monter les enchères. Ce matin, il pose trois conditions à Rachida Dati, dont je cite un changement de ton dans cette campagne. Je rappelle qu'avant le premier tour, Rachida Dati qualifiait Pierre-Yves Bournazel d'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. Autre condition, un rejet sans ambiguïté de toute alliance avec l'extrême droite de Sarah Knafo, qui, elle aussi, tend la main à Rachida Dati. aussi. La candidate LR a visiblement fait son choix. Nous allons travailler avec Pierre-Yves Bournazel à un projet d'alternance, écrit-elle ce matin. Mais attention, à ce stade, ça ne vaut pas accord, nous certifie l'entourage de Pierre-Yves Bournazel, qui doit justement réunir tous ses colistiers à 15h pour en discuter et trancher d'ici la fin de journée.
Voilà, suspense encore quelques heures à Paris. Merci Julien Nenny pour ces informations avec Florent Layani, présente au second tour également dans la capitale. Sophia Chikirou de la France Insoumise, à ce stade, aucune discussion avec la liste du candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Même chose à Amiens, le candidat socialiste arrivé deuxième derrière le maire sortant et centriste. Ce candidat socialiste annonce qu'il n'y aura pas de fusion avec la liste Insoumise, arrivée en cinquième position avec moins de 10%. 35 000 élections donc hier partout en France, comme 35 000 communes. C'est beaucoup, Maxence Lambrecq, on vous retrouve. Il y a donc des choses qui forcément nous ont échappé, mais qu'il est intéressant de noter.
Oui, François Bayrou s'est caché à Pau, hein, pas un micro parisien, mais le RN dans sa ville à 16%. C'est inédit, il n'a que 6 points d'avance sur la gauche, ça devrait passer tout de même. Bordeaux, la surprise Philippe de Sertine, l'économiste libéral en dehors des partis, atteint 20% des voix et dit ce matin qu'il ne fusionnera pas avec l'ancien ministre Thomas Cazenave, donc l'écolo Pierre Urmic, favori dimanche à Bordeaux. Menton, le parachutage raté de Louis Sarkozy, cette ville n'est pas une fille facile, comme il a osé dire. Il finit 3e, 18%, deux fois moins que la candidate RN. Grenoble, on peut avoir été l'élu français qui a passé le plus de temps en prison et revenir en tête dans sa ville. Alain Carignon, 14 000 voix, 27% des suffrages, un point devant Laurence Ruffin, la sœur de François Ruffin, favorite du second tour. Il faut aussi souligner, derrière les éclats de LFI et le maintien de la gauche dans les grandes villes, LR qui garde son assise, son maillage majoritaire dans les villes de 9 000 à 30 000 habitants. De quoi potentiellement garder une majorité au Sénat en septembre prochain. Les listes divers droites en tête dans plus de 1000 communes, de Saint-Malo à Metz, de Vertou à Lisieux, de Chambéry à Avignon. Tant pis pour Paris, Lyon et Marseille. LR se console avec cette liste.
Merci Maxence Lambrecq. Avant de parler de la suite à gauche notamment, allons d'abord dans une commune qui illustre la progression des insoumis à l'échelon local. Saint-Denis, 150 000 habitants, l'une des villes olympiques il y a deux ans. L'insoumis Bali Bagayoko a hier soir fait tomber le maire socialiste sortant Mathieu Hanotin. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes sur place, Laurence. Il semble qu'il y ait quand même une forte dimension personnelle dans ce vote.
Oui, d'abord un rejet du maire sortant, accusé de complaisance vis-à-vis du macronisme et de gentrification forcée.
Bah écoutez, moi ça fait 60 ans que je suis à Saint-Denis. Bah, il a fait pour les riches, il n'a pas fait pour les pauvres. Moi je suis pour le monsieur de la couleur. Moi j'ai dit à mes enfants de voter pour eux, pas pour celui qui était déjà.
Sur le parvis de la mairie, arrivé de Bailly Bagayoko.
On a bien voté. Hein.
Un enfant des quartiers dionysiens de 53 ans qui revendique haut la stratégie insoumise.
Le bruit, la fureur, la conflictualisation et tout ça, en réalité, chez nous, c'est là où se trouve le chemin, en réalité. Le dernier passage de Jean-Luc Mélenchon, l'étincelle, voilà. L'intervention, d'ailleurs, de Sébastien Delogu, vous avez la chance d'avoir un racisé, c'est pas le terme que moi j'emploie, mais il avait compris et indiqué le fait que être un enfant, en fin de compte, issu de ce territoire-là, ben, c'était aussi une chance. Vous avez vu, toute la fachosphère s'est mise en mouvement pour dire « c'est un scandale, il faut voter pour le noir ». Le noir, il est 4 enfants, il a fait l'école de la République, il est cadre de développement dans un groupe de transport, a priori quelqu'un de respectable.
Et de fait, la violence des attaques a manifestement servi ici la mobilisation des quartiers populaires.
Reportage Laurence Perron avec les moyens techniques de Maël Larfasseur à Saint-Denis. Autre commune de ce département, la Seine-Saint-Denis, autre configuration, c'est Saint-Ouen, le socialiste et maire sortant Karim Bouamrane en tête avec 46% des voix, bien parti pour être réélu, la liste insoumise à 19%. Alors la question pour la gauche maintenant, c'est de savoir si ses représentants vont s'entendre, et là il y a tous les cas de figure. Victoria Coussa, on vous retrouve avec déjà des accords conclus ce matin.
Oui, c'est le résultat d'une nuit blanche, de visio, de coups de fil entre chefs de parti, de rencontres entre candidats. Ça bouge beaucoup depuis ce matin. Dernière fusion en date à Avignon entre le PS et LFI. La gauche top également à Toulouse et c'est significatif. Le socialiste François Briançon, pourtant opposé à LFI, accepte de se ranger derrière l'insoumis François Picmal. Les deux veulent renverser Jean-Luc Moudin qui est sa liste de droite. Deal conclut également à Besançon avec LFI où la maire écologiste Anne Vigneault cherche à sauver sa peau. Les discussions avancent à Limoges avec un insoumis PS compatible à Tours pour le sortant écolo. Négociation bien engagée à Lyon entre Grégory Doucet et LFI qui a très vite proposé une fusion technique.
Et puis Victoria, il y a deux villes, alors que ce ne sont pas du tout dans la même région, mais leur sort semble lié, c'est Strasbourg et Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Vous connaissez le principe du troc ? Eh bien,
oui, à peu près.
Ça y ressemble. En gros, chez LFI, on dit aux écolos « Ok, pour sauver Jeanne Barseguian à Strasbourg, pour rattraper la socialiste Catherine Trottmann, mais en échange, vous nous donnez Lille. L'écologiste Stéphane Bally est en position de faiseur de roi entre l'héritier socialiste de Martine Aubry et l'insoumise arrivée deuxième. On connaîtra très vite son choix. En début d'après-midi, nous assure-t-on, tout est fait pour atterrir d'ici la fin de journée. Échéance pratico-pratique, il faut envoyer à l'impression d'ici ce soir tous les documents électoraux, des bulletins de vote aux professions de foi.
Merci Victoria Koussala. Il n'y aura pas de discussion à Nice. La candidate de gauche arrivée troisième, Juliette Chesnel-Leroux, refuse la main tendue du maire Christian Estrosi qui en appelle au Front Républicain pour battre Éric Ciotti, son ancien bras droit soutenu par le Rassemblement National. Christian Estrosi a 13 points de retard. Mais revenons à Toulouse dont nous parlions à l'instant. Toulouse où un accord a donc été conclu ce matin entre les socialistes et les insoumis. Et c'est vous désormais qui portait les couleurs de la gauche. François Picmal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous après cette annonce ce matin. Hier soir, le coordinateur national de votre mouvement, Manuel Bompard, avait appelé à constituer des fronts antifascistes partout en France. C'est ce que vous faites à Toulouse ? C'est un front antifasciste contre un centriste ?
Oui, c'est aussi ça. C'est porté à l'ADN de notre ville, qui est une ville antifasciste, une ville de tolérance, d'accueil. Mais surtout une ville qui a envie de tourner une page, celle de Monsieur Moudin, qui est de la droite radicalisée, du Toulouse plus cher, du Toulouse inaccessible et du Toulouse parfois très réactionnaire. Et je pense qu'il y a un élan dans la ville aujourd'hui, une dynamique qui nous oblige à la responsabilité et donc à faire l'union de la gauche pour faire en sorte de proposer une alternative.
Jean-Luc Moudin, c'est la droite radicale.
Oui, c'est la droite radicale à bien des effets. Je sais que de Paris, Toulouse est très loin. Et moi, je regrette d'ailleurs, je vous le dis en passant, que
pas tant que ça, mais allez-y.
Je regrette que Radio France n'ait pas proposé un débat dans la troisième ville de France quand elle l'a fait dans d'autres villes. Et je vous invite, pourquoi pas, à le faire au cours de ce second tour. Comme ça, tout le monde sera éclairé sur les positions des uns et des autres à Toulouse. Toujours est-il que notre union, elle se fait sur la base d'un programme, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, l'encadrement des loyers, la création d'un nouveau service public communal de l'éducation et sur un horizon, la planification écologique. C'est ce à quoi nous sommes arrivés. Moi, je tiens à saluer François Briançon et toute sa liste qui ont su faire preuve de responsabilité et avec lequel maintenant nous allons construire un autre avenir pour les Toulousaines et Toulousains.
François Briançon, avant le premier tour, il vous demandait de prendre vos distances avec Jean-Luc Mélenchon pour passer un accord. Est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui, François Picmal ?
Non, pas du tout. Moi, je suis admiratif de Jean-Luc Mélenchon et je pense que sans lui, il n'y aurait plus de gauche en France. Je sais que c'est une obsession médiatique.
C'est pas une obsession médiatique, monsieur Picmal. Ce sont les propos, permettez-moi, ce sont les propos de François Briançon à quelques jours du premier tour.
J'ai répondu à ces questions ainsi qu'à vos confrères que monsieur Mélenchon avait clarifié ses propos. Il a fait un long tweet explicatif où il avait dit qu'il était désolé s'il avait blessé des personnes. Mais en aucun cas, on ne peut qualifier Monsieur Mélenchon au regard de son parcours, de ses idées. Et je vous invite aussi à avoir l'honnêteté intellectuelle d'écouter l'ensemble de ses discours, où il fait de la lutte contre toutes les discriminations et contre l'antisémitisme le fondement de notre mouvement insoumis.
Alors cette
Maintenant que les choses sont dites là-dessus, moi je veux m'intéresser aux Toulousaines et Toulousains.
Il y a des réactions, François Picmal, à cette fusion, notamment chez les colistiers de François Briançon. L'un d'eux écrit ce matin... Je le cite, « Il n'y a pas d'antisémitisme que l'on efface par une tractation ». Fin de citation. Ça vient d'un des anciens colistiers de M. Briançon. Bah, écoutez, est-ce que vous n'avez pas peur de faire fuir une partie des électeurs de gauche et du centre ?
Moi, je pense qu'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiciennes, puisque la personne que vous citez est un proche de Carole Delga, pour encore une fois...
La présidente socialiste de la région Occitanie.
Voilà. Pour encore une fois essayer éventuellement de faire gagner la droite à Toulouse, ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, les Toulousaines et les Toulousains, ils ne me parlent pas de ces choses-là. Ils me parlent de leur fin de mois. Ils me parlent de l'envie d'avoir des enseignants qui soient devant leurs enfants et pas d'avoir des trous dans la raquette dans l'éducation nationale, d'avoir des loyers qui soient trop chers, ce qui fait que 2000 habitants sont obligés de partir chaque année de Toulouse parce que la ville est devenue trop onéreuse. Voilà les priorités des gens. Le reste m'intéresse plus,
Un mot du programme, François Picmal, et des grands sujets toulousains si vous êtes élu. Par exemple, la ligne à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse, la ligne ferroviaire. La majorité de la liste de François Briançon est en faveur de ce projet. Vous, chez les Insoumis, vous êtes opposé depuis le début. Comment est-ce que vous faites ?
Alors, on n'est pas juste les Insoumis, c'est le cas aussi des écologistes. Oui. Et on a décidé d'une méthodologie, voilà, pour sortir par le haut, par exemple, de nos points de désaccord, qui est qu'il y aura un vote au Conseil métropolitain qui permettra de se déterminer. Donc, sera la démocratie qui parlera sur ce sujet. On va pas changer les opinions des uns et des autres sur cette thématique en un jour. Moi, je continue à être défavorable à cette LGV. Parce que c'est 13 fois les dégâts environnementaux de la 69.
Mais vous pouvez siéger avec des gens qui sont favorables au conseil municipal.
Et de toute façon, il y a d'autres points qu'on éclaircira par le vote. Et voilà, ça s'appelle la démocratie. Et moi, j'entends être un maire aussi démocrate qui redonne du pouvoir d'agir et de décision aux habitantes et aux habitants, ce qui manque cruellement aujourd'hui à Toulouse.
Merci François Picmal d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14, candidat donc désormais des Insoumis, mais aussi des socialistes à Toulouse, où Jean-Luc Moudin, qui est donc arrivé en tête hier soir, la droite en tête aussi dans plusieurs villes traditionnellement à gauche. C'était le cas hier à Limoges, à Brest, à Tulle, à Besançon, mais aussi à Clermont-Ferrand, où nous serons à partir de 13h30 dans une dizaine de minutes pour continuer de parler ensemble et avec vous de ces élections municipales 01 45 24 7000 pour intervenir, que vous ayez voté ou pas hier.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Dans l'actualité de ce lundi, toujours la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz qui plombe l'économie mondiale. Donald Trump, qui a décidé sans consulter ses alliés d'attaquer l'Iran, leur demande maintenant, en tout cas aux pays de l'OTAN, de l'aider à sécuriser ce détroit. C'est non, disent ce matin les Allemands et les Britanniques, ce qui ne va pas faire baisser les cours du pétrole, toujours autour de 100 dollars le baril. D'autant que ce matin, des infrastructures pétrolières ont à nouveau été touchées par des attaques de drones iraniens aux Émirats Arabes Unis. Alors que faire pour limiter la facture ? Les ministres européens de l'énergie sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour faire baisser justement les prix et limiter les bénéfices des énergéticiens. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça nous rappelle des souvenirs. 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a tiré des leçons ?
Eh bien, pas tout à fait, même si le sujet a fait l'objet de nombreux plans d'action européens ces dernières années. Le dernier, pas plus tard que la semaine dernière, un texte qui vise à stimuler les investissements dans les énergies propres et qui incite les États membres à réduire la fiscalité sur l'électricité pour faire baisser les factures des ménages. Mais sur le dossier crucial des importations de gaz, de l'avis de nombreux experts, la vulnérabilité de l'Europe n'a pas baissé depuis 2022. Des terminaux flottants de transformation sont apparus un petit peu en Allemagne et aux Pays-Bas, mais c'est très marginal. L'Union européenne dispose par ailleurs de stocks saisonniers, mais pas de stocks de sécurité comme pour le pétrole. Résultat, les tensions sur le marché mondial se répercutent très vite sur les prix, on l'a vu ces derniers jours, prix du gaz et dans la foulée sur les cours et les prix de l'électricité, c'est mécanique. D'où cette question, doit-on aller vers un mécanisme de correction de marché ou un plafonnement des prix à l'échelon européen ? Ça fait partie des débats qui ont lieu en ce moment même à Bruxelles. Techniquement, ce n'est pas impossible, mais cette option assortie de pas mal de conditions qui avaient été mises en place fin 2022 justement, n'a pour le moment jamais été déclenchée.
Explication signée Claire Chaudière. C'est un peu le match retour pour l'amateur de football qu'est Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est rejugé. À partir d'aujourd'hui, devant la cour d'appel de Paris, c'est le procès en appel dans le dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 qui lui a valu de passer 20 jours en détention à l'automne dernier. Le procès doit durer jusqu'au 3 juin. C'est vous qui allez le suivre pour France Inter. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Charlotte, en direct du Palais de Justice de Paris. Le casting de ce procès n'est pas tout à fait le même qu'en première instance.
Oui, alors c'est vrai évidemment pour les magistrats. Hein. Cette fois, ce sera un président d'audience, Olivier Géron, forte personnalité, rompu au procès délicat. Pour porter l'accusation, trois nouveaux magistrats du parquet également, déterminés à se battre sur l'ensemble des infractions reprochées, y compris celles qui ont fait l'objet d'une relaxe en première instance, comme la corruption. Mais par rapport au premier procès, il y a aussi des changements côté prévenu. L'homme d'affaires franco-libanais, principal accusateur de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine, est mort en septembre dernier. Le cas de Claude Guéant, malade, devra être décidé en ouverture du procès. procès. Les autres prévenus, eux, seront présents. Éric Woerth, Brice Hortefeux sont arrivés. Nicolas Sarkozy, à l'instant même, ainsi que son nouvel avocat pour ce procès, un pénaliste plus rodé aux audiences, sans doute plus pugnace aussi, pour tenter d'éviter à Nicolas Sarkozy une réincarcération inévitable en cas de condamnation supérieure à 2 ans de prison. Et puis, dans ceux qu'on retrouve et qu'on a vu prendre place dans la salle d'audience, les filles du décédiste, ainsi qu'elles se surnomment elles-mêmes, des femmes majoritairement, vous l'avez compris, proches des victimes de l'attentat du décédiste dont le commanditaire était le bras droit de Muammar Kadhafi. À noter enfin, beaucoup de public, trop pour espérer tous entrer, mais signe de l'intérêt que même en appel, ce procès suscite encore beaucoup.
Charlotte Piret en direct avec les moyens techniques de Johanna Gabric. C'est sans doute l'anonyme le plus célébré au monde et son identité viendrait d'être révélée. L'artiste britannique Banksy, connu pour ses pochoirs dans le monde entier qui porte un regard critique sur la société, parmi les pochoirs les plus connus, bien sûr, la jeune fille au ballon. Eh bien, des journalistes de l'agence américaine Reuters assurent avoir découvert qui est Banksy après une très longue enquête publiée il y a 2 jours. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Alors qui est-il ?
Robin Cunningham, né à Bristol en 1973. Un nom déjà cité dans une enquête du Mail on Sunday en 2008. Aujourd'hui donc par ces journalistes de Reuters, ils ont interrogé une douzaine de proches de Banksy. Tous ont refusé de révéler son identité, mais ont parfois livré des détails sur sa vie. Ces journalistes ont surtout consulté des archives judiciaires américaines des années 2000, dont une confession manuscrite signée Robin Cunningham, arrêté puis relâché après avoir saboté un panneau publicitaire à Manhattan. Et selon Reuters, l'artiste Banksy avait séjourné à cette époque dans un hôtel juste à côté, enregistré sous le pseudonyme Robin Banks. Ces journalistes sont aussi allés jusqu'en Ukraine où en 2022, après le début de la guerre, Banksy avait revendiqué plusieurs peintures. Des sources à l'immigration leur ont signalé le passage à l'époque d'un certain David Jones, nom terriblement commun au Royaume-Uni, mais né selon son passeport le même jour que le Robin Cunningham de Manhattan. Alors, sans rien confirmer, l'avocat de Banksy a demandé à Reuters de ne pas publier l'article, assurant que cela menace la vie privée, le travail de l'artiste. Reuters a réfléchi et finalement choisi de le faire au regard, je cite, du pouvoir culturel de Banksy et de son rôle dans le débat public aujourd'hui.
Révélation de l'agence de presse britannique Reuters. Vous nous parliez de l'Ukraine, Camille Marigot. L'acteur américain Sean Penn a remporté hier soir son 3e Oscar. Il était absent de la cérémonie aux États-Unis et pour cause, il est à Kiev aujourd'hui, pour, dit-il, soutenir l'Ukraine. Il devrait y être reçu par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, auquel il a consacré en 2023 un documentaire. Nous avons commencé par les résultats des municipales. Il y a d'autres résultats attendus aujourd'hui. Ils concernent la gastronomie, ceux du guide Michelin qui distribue ses étoiles en ce moment lors d'une cérémonie à Monaco qui sera rendue publique, ce palmarès 2026 à partir de 17h. Alors c'est vrai que le Michelin est parfois critiqué, mais pour les jeunes chefs qui y accèdent, ils changent la vie. C'est ce qu'a vécu Maxime Boutier dans son restaurant Géosmine à Paris. Faustine Calmel l'a rencontré.
Cintré dans sa veste blanche, Maxime Boutier émiette pour le service du midi une meringue acide.
Vous voyez, la meringue, elle n'aime pas la pluie qui est en train de se passer dehors. En train de ramollir.
Le chef trentenaire, bras tatoué et rap des années 80 dans sa playlist, a décroché sa première étoile il y a 2 ans.
En réalité, ce qu'on a vécu avec l'étoile Michelin, ça vous propulse dans un truc qui est stratosphérique. Que le mois qui a suivi le guide Michelin, on a augmenté le chiffre d'affaires par 2. C'est énorme, ce chiffre, on ne le refera plus.
Un taux d'occupation qui grimpe de 30%, des clients qui dépensent plus et des honneurs qui peuvent monter à la tête.
Quand on a eu l'étoile au début, les gens ils demandaient des photos, des signatures, mais tous les jours, mais des trucs qu'on ne méritait pas. Et donc vous avez l'impression d'exister, mais en fait, vous existez pendant un moment pour les gens. Vous êtes devenu un effet de mode.
Mais la mode change, retombe forcément, et la pression, elle, reste.
Quand je fais une assiette, je me dis pas ça, est-ce que ça vaut une étoile, pas une étoile, parce que là, sinon, c'est la fin des haricots. Et ça change, par contre, je pense beaucoup la pression qu'on peut avoir en interne. Parce que avant, sans étoile, on est un restaurant qui vaut le coup financièrement. Pour tant d'euros, on mange tant de plats, c'est un nouveau resto, c'est cool. On a un droit à l'erreur plus important.
Pour retrouver un peu de légèreté, Maxime Boutier ouvrira dans quelques semaines un autre comptoir dans la même rue, sorte de bar à tapas. Mais garde en tête, pour Géosmine, son rêve de gosse, décrocher un jour une deuxième étoile.
Voilà, ça change la vie, ça change les prix aussi à la carte. Reportage Faustine Calmel, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin et puis la suite de notre édition spéciale municipale avec nos invités et avec vous, 01 45 24 7000 pour nous rejoindre, nous dire pourquoi vous avez voté hier, pourquoi vous n'avez pas voté, que vous soyez électeur d'une petite commune ou d'une grande ville. Nos invités sont là pour vous répondre et je vous les présente dans un instant. À tout de suite.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon?
Ah ben des lasagnes, c'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait, on passe par le marché d'abord et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour bénéficier de nos services, rendez-vous sur o2.fr.
Bon, alors aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur bioclimatique.
Très bien, Chantal Chiacchella, c'est un grand classique.
Et demain, s'il fait trop chaud, il me faut une pergola à toit ouvrant, non?
Bien sûr.
Et si je n'ai pas envie de voir mes voisins, hein? Des stores motorisés sur la pergola, vous savez faire?
Évidemment.
Et en même temps, celle-ci est design. Oh, j'hésite, hein?
C'est aussi ça, le choix des pergolas, Akena.
Dites donc, vous, vous n'auriez pas une pergola pour chacune de mes envies, par hasard?
Et si, Chantal?
Ben au moins, vous n'êtes pas contre à rien.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas!
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour tous et tous.
C'est le printemps cette semaine.
Oui, il s'installe, une période de transition où Météo France annonce l'arrivée de hautes pressions, ce qui favorise le retour d'un temps sec sur l'ensemble du territoire. Cela dit, le ciel n'est pas encore lumineux partout. Sur une large moitié nord, il reste même très nuageux avec de rares averses au nord de la Seine jusqu'en Auvergne qui se transforme en neige dès 900 mètres dans les Vosges, le tout sous un vent d'ouest sensible atteignant 50 km/h en rafale. En descendant vers le sud, le ciel est un peu plus variable. Les éclaircies prendront l'avantage en fin de journée, tandis que, près de la Méditerranée, le soleil brille, accompagné d'un vent toujours faiblissant.
Et des températures de saison.
Alors, on entre dans une période de forte amplitude thermique, avec un réveil qui va rester frais, parfois accompagné de petites gelées.
Ouais, toujours des gelées.
C'est ouais. Ça, mais un air qui s'adoucit en cours de journée. Cet après-midi, les températures seront comprises entre 9 degrés dans les Ardennes, 16 près de la Méditerranée. Il fera 10 degrés à Besançon, 13 à Brest, 16 à Grenoble, 20 degrés à Montpellier, jusqu'à 21 degrés à Toulon.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Un 13-14 spécial élection municipale. Aujourd'hui jusqu'à 14h avec nos invités, avec nos reporters. Sur le terrain, nous allons revenir sur les principaux enseignements du premier tour. L'abstention, le Parti Socialiste toujours dominant dans les grandes villes. LR dans les villes moyennes, les poussées du Rassemblement National et des Insoumis. Le sort de Paris, de Lyon, de Marseille, sur tous ces thèmes. Et sur d'autres, allez-y, 01 45 24 7000 pour nous rejoindre. J'attends vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. C'est l'onglet Réagir. Avec nous, pour vous répondre, Victoria Coussa, service politique de France Inter. Mathieu Gallard, bonjour.
Bonjour.
Directeur d'études chez Ipsos, qui est notre partenaire pour ces élections municipales 2026. Ipsos BVA, saisie école d'ingénieurs. Et en direct d'Avignon, Jessica Sinti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon. On va parler avec vous plus particulièrement de ce qui s'est passé dans le Sud-Est, Marseille, Nice et Toulon, entre autres. Je voudrais qu'on commence par l'abstention, parce que c'est quand même le fait majeur d'hier, 56%. C'est ça, Mathieu Gallard, selon votre estimation?
Voilà, on attend encore les chiffres officiels au niveau national, mais on estimait hier soir que le taux de participation final tournerait, le taux de participation ouais. Tournerait autour de 56%.
Le pire de l'histoire, à l'exception du premier tour de 2020, où on votait avec un masque et avec distance réglementaire. Enfin bref, rien n'était fait pour aller voter il y a 6 ans, un peu plus cette année. Et pourtant, et c'est Jean-Marie qui est dans le Puy-de-Dôme qui nous appelle. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour.
Vous êtes allé voter hier?
Non.
Vous n'êtes pas allé voter. Pour quelle raison?
Non. Eh bien, écoutez, très simplement, d'abord, j'ai l'impression que nous sommes pas en démocratie, mais en aristocratie. Nous avons changé les règles du jeu, c'est-à-dire que dans les petites communes où auparavant, on pouvait éventuellement rayer des noms, rajouter des noms, voire, bon, s'il y avait deux listes, on pouvait panacher. Maintenant, on peut plus. On vote pour une liste entière. Alors, pourquoi aller voter? Puisque, de toute façon, même avec une seule voix, la liste passe. Et même si des gens sur cette liste ne nous plaisent pas, on ne peut pas les rayer. Donc, moi je pose la question, c'est ça la démocratie? Je trouve pas. C'est plutôt la porte ouverte à des gens qui vont faire des mandats, 5-6 mandats comme ça, les uns derrière les autres. Voilà, bonne journée.
Merci Jean-Marie pour ce témoignage qui en recoupe d'autres. Hein. Ce sont des témoignages qu'on a beaucoup entendus durant cette campagne. Mathieu Gallard, est-ce que ça explique en partie l'abstention d'hier? Les règles étaient nouvelles dans les communes de moins de 1000 habitants?
Oui, bien sûr, les règles étaient nouvelles. Comme votre auditeur le disait, dans le passé, lors des précédents scrutins, même dans les communes où il n'y avait qu'une seule liste, quand la commune comptait moins de 1000 habitants, on pouvait panacher, c'est-à-dire rayer des noms ou en ajouter. Donc évidemment, bah, ça pouvait quand même vous motiver à aller voter. Désormais, on ne peut plus rien faire. Voilà, si vous vous rendez aux urnes et qu'il n'y a qu'une seule liste dans ce type de commune, vous ne pouvez que voter pour cette liste. Donc effectivement, là, c'est vraiment extrêmement peu motivant. Et on voyait bien, nous, dans notre enquête qu'on a réalisée, Ipsos BVA pour saisir avec Oslo d'ingénieur, le fait que les résultats soient connus d'avance dans sa commune, eh bien c'était un des deux premiers facteurs explicatifs de l'abstention. Donc oui, cette dimension, elle joue fortement.
Est-ce que ça explique toute l'abstention, Victoria Coussa?
Pas toute
l'abstention. C'est-à-dire, est-ce qu'ailleurs, la participation était bonne, mais vraiment, c'est que dans les plus petites communes que ça s'est effondré ou que ça
a baissé? Non, effectivement, elle est très différente. Alors oui, il y a cette démotivation dans les plus petites communes avec ces nouvelles règles, dans les communes de moins de 2000 habitants, qui fait qu'effectivement, certains habitants, comme Jean-Marie, ne s'y retrouvent plus et n'ont pas envie de se déplacer, tout simplement, pour aller dans les urnes. Mais il y a aussi énormément de l'abstention dans des villes, par exemple, Roubaix, avec David Guiraud qui arrive en tête, l'Insoumis. Là aussi, il y a une forte abstention. Donc ce chiffre englobe pas mal de choses. En revanche, dans des très grandes villes, à Paris par exemple, il y a eu plus de votants qu'en 2014. Pourquoi ? Parce que le scrutin est particulièrement ouvert. Ces élections municipales n'ont jamais été aussi ouvertes, d'ailleurs, avec beaucoup d'enjeux dans les plus grandes villes, où le PS peut perdre la capitale, le PS peut perdre la deuxième ville de France. Donc les jeux sont ouverts, et donc forcément ce suspense attire aussi dans les urnes, avec des électeurs qui votent aussi contre Rachida Dati, par exemple, ou contre Franck Alizio, ou à
avec
l'inverse.
Des personnalités peut-être
avec des personnalités qui vantent, effectivement, ouais. Qui peuvent surmobiliser.
Je reviens quand même sur ce thème, parce qu'on a sur le thème des petites communes et des listes où qu'on ne peut plus rayer. Marie-Claude de Bellegarde, j'ai voté dans une commune de moins de 1000 habitants. Avant, s'il n'y avait qu'une liste, on avait le droit de rayer. Ça n'est plus possible. Autre message de Marianne dans la Nièvre. Dans ma petite commune, nous n'avons qu'une liste. Sur les 11 personnes, il y en a 5 de la même famille qui sont élus. Donc, on ne peut pas contester le maire, nous dit-elle. Je pensais que c'était interdit. Mais pas pour les communes de moins de 500 habitants. Ça revient beaucoup. Jessica Sinti, dans ce que vous avez étudié, analysé de ce vote, comment est-ce que vous expliquez cette abstention extrêmement forte hier, vous qui êtes à Avignon?
Alors, si on continue sur le sujet des petites communes...
Par exemple?
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc il y a ce changement de mode de scrutin, et puis bah, c'est ce que dit ce que vous venez de rapporter là d'une auditrice sur le fait que on a des membres de la même famille. Il ne faut pas oublier que dans ces petites communes, les réseaux d'interconnaissance sont très forts. L'élection est vraiment personnalisée, et du coup ça fait vraiment aussi partie des facteurs qui peuvent expliquer la démobilisation. Après, pour avoir des
on peut juste rappeler Jessica Sinti, pourquoi il y a eu cette modification? Pourquoi on a finalement décidé de changer les règles du jeu, de ne plus permettre aux électeurs de rayer les noms des candidats?
Ça, c'est des questions d'harmonisation, je crois, des élections. Je n'ai plus la raison exacte.
Mathieu Gallard, d'un mot, et puis je vous redonne la parole, Jessica Sinti.
Je crois que c'est lié au fait que les listes doivent être désormais paritaires aussi dans les communes de moins de 1000 habitants. Et du coup, si vous panachiez, à la fin, votre conseil municipal pouvait ne pas être paritaire. Donc ouais. C'est vrai que la parité peut avoir des effets contre-productifs en termes de participation.
Jessica Sinti, poursuivez sur l'abstention d'hier.
Ouais, et du coup sur l'abstention donc dans ces petites communes, ça après il faudra attendre la publication des résultats définitifs. Hein. Pour l'instant, il me semble que le ministère les a pas encore communiqués.
Exact.
Mais regardez aussi si justement c'est le fait que dans les listes, dans les communes dans lesquelles il y a plus de listes ou dans lesquelles il y a un enjeu fort qui a pu être identifié, même parmi les petites communes, est-ce qu'il y a eu de la participation? C'est-à-dire que si on regarde aussi certaines listes, c'est des listes qu'on appelle les listes citoyennes et participatives, qui sont des listes qui ont tendance à se positionner, on va dire, contre le système politique et contre la mainmise des partis ouais. politiques sur l'organisation de la vie politique. Un exemple marquant de ça, ça avait été la liste qui avait remporté la victoire à Saillant dans la Drôme en 2014. Eh bien, c'est donc là, on est dans des petites communes aussi. Il peut y avoir des propositions politiques alternatives qui émergent, et de ce qu'on peut observer sur certaines de ces communes dans lesquelles il y a eu des listes participatives là.
Ouais.
Aux élections de 2026, c'est qu'il y a eu, il peut y avoir eu une participation et il y a eu des listes qui passent là au premier tour. Les premières estimations pour l'instant montrent qu'il y aurait une grosse centaine de listes élues au premier tour dans ces communes-là.
Il n'y a pas
une dépolitisation totale du jeu politique dans les petites communes non plus.
Il y a des exceptions parmi lesquelles la commune de Saint-Dizier, dont vous êtes le maire réélu. Quentin Brière, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Nous étions dans votre commune, dans ce 13-14, mercredi dernier, en direct de Saint-Dizier. Il y avait trois candidats, dont une candidate du Rassemblement National qui arrive en seconde position. Vous avez donc été réélu au premier tour. Avant de parler du contexte de votre score, du résultat, il y a eu plus de votants, je crois, chez vous, qu'il y a 6 ans, bien sûr, mais qu'il y a 12 ans aussi.
En fait, c'est un signal important, parce que d'habitude, Saint-Dizier vote moins qu'au niveau national. Donc, il y a une démobilisation plus forte que ce qu'on peut retrouver au niveau de la France entière. Et là, c'est l'inverse. On a une participation qui est plus forte, ce qui montre aussi une forme de mobilisation et un intérêt croissant, en tout cas localement, pour la politique communale.
Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est la présence d'une candidate du Rassemblement National, notamment, c'était la première fois depuis très longtemps, je crois, dans votre commune, qui a pu ramener de l'enjeu ?
Il est possible que ça ait ramené de l'enjeu, parce que quand vous battez politiquement avec des projets et qu'en face on vous oppose une étiquette, je suis pas sûr que ça ait rassuré. Et donc les gens, certainement, les habitants de Saint-Dizier ont voulu se déplacer pour en tout cas apporter un soutien manifeste. Ouais.
On va vous retrouver dans quelques minutes, Quentin Brière. Juste d'un mot, parce qu'on en parlait hors antenne, Mathieu Gallard, on dit souvent quand il fait beau, les gens vont moins voter. Est-ce qu'on a étudié le lien entre la météo et la participation aux élections ? Je dis ça parce qu'hier il faisait très beau en France et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un dimanche aussi agréable.
Il y a des études universitaires qui ont été faites sur le sujet. Alors en France, surtout dans d'autres pays, d'ailleurs des pays anglo-saxons plutôt, qui montrent, me semble-t-il, que le lien entre la météo et la participation est extrêmement ténu, sauf si la météo est catastrophique, ce qui n'était pas le cas hier.
Voilà, si une tempête arrive sur un Évidemment. Territoire, les gens prendront moins de risques. Avant de retourner à Saint-Dizier en Haute-Marne, qui est un territoire où d'habitude on vote beaucoup pour le Rassemblement National, je voudrais qu'on aille dans le département du Pas-de-Calais retrouver Mathieu Bonnour. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez suivi le vote hier, notamment dans la commune de Lens, dans laquelle vous vous trouvez. Le RN voulait progresser, rafler des mairies. En tout cas, à Lens, ça n'a pas fonctionné. Le Rassemblement National est passé tout près.
Non, ça s'est joué à 400 voix d'écart seulement, un mouchoir de poche. Voilà ce qui sépare la liste du maire sortant, réélu dès le premier tour, et son adversaire principal, le candidat du Rassemblement National, Bruno Clavet. Du côté des soutiens du socialiste, c'est un véritable soulagement. Il y avait du doute jusque dans les derniers instants. Du soulagement, oui, et pourtant cet écart très restreint interroge pour la suite. Sylvain Robert promet de s'en occuper avec des projets concrets pour les Lensois. Les proches de la campagne du Rassemblement National dans cette ancienne ville minière ne gardent pas un goût amer de cette défaite. Bien au contraire, elle confirme la dynamique de fond, une progression de 23 points au premier tour par rapport aux dernières municipales. Hier, près d'une personne sur deux à Lens a glissé un bulletin de vote RN dans l'urne. Alors pour la prochaine fois, il compte bien réussir à s'emparer de l'hôtel de ville dans ce bastion de la gauche, un symbole dans une région de la culture ouvrière qui a longtemps porté haut dans les élections les partis communistes et socialistes avant de se tourner récemment vers l'extrême droite.
Et dans le bassin minier au-delà de Lens, Mathieu Bonnour, tout de même, le Rassemblement National progresse.
En coulisses, le RN espérait une grande vague bleu marine dans ces communes du bassin minier. Pas de résultat triomphant hier soir, il faut se pencher sur les détails. Car on remarque ici et là des communes qui ont élu un maire RN dès le premier tour face à des sortants de gauche, comme à Louison-sous-Lens, Drocourt, Arnes ou encore Oudin. Ceux qui étaient déjà élus ont réussi à conserver leur fauteuil de maire, c'est le cas à Bruay-la-Buissière. En 2014, il y avait le choc de Hénin-Beaumont et Steve Briouat qui s'étaient emparés de la mairie avec le RN. Petit à petit, on voit bien que cette implantation s'étale, grandit et prend forme plus largement. Il y aura aussi des seconds tours avec des listes du Rassemblement National. Une figure du parti dans la région nous glisse que ces résultats sont encourageants pour l'avenir, car comme à Lens, dans de nombreuses villes, les résultats ont largement progressé par rapport aux dernières municipales. Signe que le RN fait désormais partie du paysage entre les terrils et l'histoire socialiste du bassin minier.
Merci Mathieu Bonnour en direct de Lens. Chez vous aussi, le Rassemblement National, Quentin Brière, fait de gros scores. Tous les députés de votre département de Haute-Marne sont issus du RN, et pourtant vous qui portez les couleurs de la droite, vous avez été élu hier dès le premier tour. Comment vous expliquez cela ?
Mais j'ai regardé hier soir les débats à la télévision et toutes les analyses qui se faisaient. J'étais surpris de voir que le débat national est hyper tendu, que plus personne ne s'écoute ni ne se fait confiance. Vous voyez, on parle déjà de 2027, donc il y a une électrisation du débat au niveau national. Mais localement, on n'a pas voulu de ça. Et je pense que c'est le jeu des étiquettes qui a voulu être rejeté. Le jeu des partis politiques. On s'est dit, ici, on veut une stabilité.
Vous n'êtes pas LR, par exemple.
Je ne suis pas LR, je suis sans étiquette. Et je pense que c'est aussi une force. Je suis frappé par la différence des débats et de l'ambiance qu'il y a quand vous êtes au niveau national et quand vous êtes au niveau local. Mais franchement, c'est dingue parce qu'on ne le voit pas assez. Et je vous remercie de nous donner la parole. Mais il y a des milliers de maires qui ont été plébiscités en France parce qu'ils sont des maires un peu entrepreneurs. Ils ont un projet, vous voyez, et ils sont venus sans étiquette. Et ils se sont battus face à des étiquettes. Et les étiquettes n'ont pas fait long feu. Parce qu'en fait, on se rend compte que les Français, c'est ça qu'ils veulent. Cette forme de stabilité et cette envie d'être en dehors de ces jeux un petit peu délétères quand même.
Merci Quentin Brière d'avoir été en direct avec nous, maire réélu hier à Saint-Dizier en Haute-Marne. Jessica Sinti, vous qui êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université d'Avignon, vous regardez avec beaucoup d'attention les résultats dans le Sud-Est. Vous constatez cette progression du Rassemblement national, mais peut-être pas à la hauteur des derniers résultats aux élections législatives ou européennes d'ailleurs.
Ce qui est important là, c'est de voir que la façon dont le RN se positionne et notamment comme une force incontournable dans les grandes villes, c'est-à-dire que les scrutins municipaux n'étaient pas forcément la zone de force du RN. Ils avaient pu conquérir quelques grandes villes et quand ils les ont, ou plus petites d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des grandes villes. Par contre, une fois qu'ils y sont, les élus, les maires RN ont tendance à y rester, à être réélus. C'est ce qu'on voit par exemple à Perpignan ou au Ponté, pour prendre l'exemple d'une plus petite ville. Par contre, le fait du coup qu'ils se positionnent en candidat tout à fait plausible pour dimanche prochain pour la victoire, les installe clairement dans le paysage politique et à Marseille, à Toulon, ça sera des victoires importantes pour le RN, pour construire la légitimité pour appuyer, renforcer encore la légitimité de la candidature présidentielle en 2027, c'est certain.
Ouais, même si ça n'est fait ni à Toulon ni à Marseille.
Et
loin de là. Mathieu Gallard, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire analyser 35 000 élections locales et en tirer des enseignements nationaux, est-ce que ça fonctionne au fond? Est-ce qu'on arrive comme ça à avoir une idée des rapports de force politiques en se basant sur des élections qui concernent des territoires bien particuliers?
Ça fonctionnait relativement bien, j'ai envie de dire, jusqu'en 2014, quand on était quand même sur un système politique bipolaire où effectivement, à la fin, vous pouviez compter le nombre de bascules de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite et avoir un bon aperçu de finalement quel camp l'emportait. Là, désormais, on est vraiment dans un système politique et partisan beaucoup plus éclaté, beaucoup plus fragmenté. C'est quand même beaucoup plus difficile d'en tirer des conclusions très claires. Franchement, moi, si on prend force par force, autant vous trouvez, que ça soit pour la FI, les écolos, le RN, la droite, le PS, etc., des communes dans lesquelles ils obtiennent des bons scores, voire de très bons scores.
Tout le monde a des raisons de se réjouir.
Vous trouvez aussi des endroits où c'est très décevant. Donc franchement, des tendances nationales très claires, c'est assez difficile.
Victoria Coussin.
En revanche, les états-majors des partis analysent ce scrutin ville par ville, commune par commune, parce qu'on est à un an de l'élection présidentielle, et notamment à gauche, on voit bien, avec cette histoire d'alliance dans pas mal de villes, on voit bien que le PS et LFI essayent de se compter, de mesurer leur force aussi pour rebattre un peu les cartes à gauche, pour savoir qui peut mener justement la gauche avec la perspective de plusieurs candidats de gauche pour la présidentielle. Donc c'est surtout les partis qui en font une échéance, qui en font un sujet national. Ouais. Mais on voit bien qu'avec la primo sortant, que les Français votent d'abord pour leur maire avant de voter pour une étiquette. Et d'ailleurs, cette étiquette a pu peser dans certains scrutins. À Toulon, avec Laure Lavalette notamment, elle n'a jamais voulu mettre le logo RN sur ses affiches. Pourquoi ? Parce qu'à Toulon, la ville reste marquée par le mandat de Jean-Marie Le Chevalier il y a 31 ans, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen. Et donc, c'est un poids, ça peut être un poids, ces étiquettes. Et même les figures plutôt nationales de ces élections ont tenté de les faire disparaître.
Justement, cas particulier, cas d'école, Mathieu Gallard, Nice. Est-ce qu'il faudra faire une lecture nationale de Nice la semaine prochaine? Éric Ciotti, UDR, Allié Rassemblement National, largement en tête devant Christian Estrosi du Bloc Central. Mais on sait aussi que ce sont deux hommes qui se détestent et c'est l'énième épisode des déchirements de la droite niçoise qui se joue sous nos yeux.
Oui, il faut faire attention avant d'extrapoler les résultats à Nice. Il y a évidemment une dimension personnelle, vous le dites, il y a une dimension très locale. On sait que Nice, historiquement, c'est une ville dans laquelle, de toute façon, la droite, on va dire très radical, est déjà arrivé au pouvoir avec Jacques Peyrat, notamment dans les années 90, me semble-t-il. Donc effectivement, c'est un contexte très particulier avec un électorat très conservateur qui peut être sensible à des fusions, des unions entre la droite et l'extrême droite. Mais de là à dire que ça peut s'appliquer dans d'autres villes, ouais, où le RN est globalement moins fort et où la droite est moins présente, c'est difficile.
Victoria Koussa, très vite.
Très vite. Simplement, les Insoumis, leur stratégie avec ces municipales était évidemment de s'implanter localement, mais aussi de tenter de mobiliser cet électorat possible, les abstentionnistes qui, d'après les Insoumis, sont une réserve de voix très importante à mobiliser notamment pour élire Jean-Luc Mélenchon en 2027. Et c'était notamment l'un des objectifs de ces municipales pour eux.
On a beaucoup d'appels et beaucoup de messages sur l'abstention hier. Sur ce chiffre, c'est le cas de Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Vous nous appelez de mes yeux, c'est près de Lyon ?
Oui, 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 c'est près de Lyon.
Merci d'être là, nous vous écoutons.
Oui, simplement une réflexion que je me fais depuis longtemps, je suis un fidèle auditeur de vos émissions et puis de Radio France en général, et je m'étonne très fortement de voir qu'aucun politique, ou très peu, hein, j'ai pas la prétention, ouais, de tout ce que c'est politique, de mettre en avant le fait qu'il serait urgent de d'imposer un peu aux personnes de venir voter. Alors je suis loin d'idées très répressives et ordonnées, je suis plutôt centre gauche si vous voulez, mais je trouve que
mais vous êtes pour le vote obligatoire.
Ben oui, ben avec oui, ouais, alors avec une petite amende ou quelque chose comme ça pour encourager tout le monde de venir ceux qui votent pas qui aient une petite amende, parce que je pense que c'est important. J'entends souvent, hein, chez mes amis qui vont pas voter de dire oh, bah de toute façon il y en a aucun qui me plaît, ou alors de toute façon ça change à rien, mais en fait
et vous n'arrivez pas à les convaincre. Vous n'arrivez pas
non,
à les convaincre, j'ai l'impression.
Ça, ouais. C'est surtout que j'entends pas ce que j'entends pas, c'est très rarement un peu dans les émissions quand il y a quelques intellectuels qui viennent s'exprimer,
ouais,
mais chez les politiques on dirait qu'ils craignent de mettre ça sur la table. Je comprends pas pourquoi d'aucun bord, on entend très peu ça dans les médias chez les politiques.
Merci Benjamin pour cette question, Mathieu Gallard.
Bon, là, c'est une question philosophique à laquelle j'ai pas de réponse. On peut effectivement penser, pourquoi pas, qu'il faut quelque part pousser, conduire, voire forcer les citoyens à s'intéresser à la vie politique et à la vie publique en les forçant à aller voter et donc en rendant le vote obligatoire. Après, on peut aussi penser que c'est peut-être avant tout aux dirigeants politiques et aux partis politiques de faire en sorte de démontrer aux citoyens qu'ils sont capables de changer leur vie, d'améliorer leur vie quotidienne et leur concret, que ça soit d'ailleurs dans le cadre des élections municipales ou des élections nationales.
Jessica Saint-Yves, on sait si le vote obligatoire ça fonctionne dans les pays où il est en vigueur?
Bah, ça peut fonctionner, mais c'est des traditions, des façons de fonctionner différentes aussi. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le contexte français, on a aujourd'hui une forte défiance des citoyens vis-à-vis des partis politiques et des institutions politiques en général. Des choses qu'on avait pu voir, par exemple, au moment des Gilets jaunes en 2018-2019. Et du coup, ce qui est à craindre, c'est que une obligation qui serait faite d'aller voter, alors même que les citoyens, ce qui ressort largement, ne se reconnaissent pas dans les élus, ne leur font plus confiance. Il y a les affaires politico-financières aussi qui renforcent ce désamour et cette défiance des citoyens pour leurs élus. Du coup, ce qui est à craindre, c'est que ça les incite pas à plus participer et qu'en tout cas, c'est pas ça qui permettra de retisser un lien de confiance entre les élus et la population.
Jessica Saint-Yves, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Vous êtes nombreux à nous écrire toujours sur ce thème de la participation-abstention. Pour la première fois, nous dit Antoine à Sainte-Cécile, je n'ai pas été voté, cela ne servait à rien. Il y a 1500 habitants dans ma commune et il n'y avait qu'une seule liste. On y revient. Là, il y avait plusieurs listes et c'est l'une des surprises de ce premier tour hier soir. La capitale auvergnate, Clermont-Ferrand et ses électeurs a porté la droite en tête lors de ce premier tour des élections municipales. Bonjour Olivier Vidal.
Bonjour Jérôme.
En direct de Clermont-Ferrand, rédacteur en chef d'ICI Pays d'Auvergne, la droite en tête dans ce bastion socialiste depuis la Libération.
Oui, c'est un petit tremblement de terre hein, au pays des volcans, Jérôme. C'est le républicain Julien Bonny, 46 ans, conseiller municipal depuis plusieurs mandats, qui arrive en tête avec près de 34% des voix. Devant donc le maire sortant socialiste gauche pluriel, Olivier Bianchi, 30%, Marianne Maximi, députée insoumise, et le RN. Bonny, donc, et sa liste d'union de la droite et du centre qui ont réussi à fédérer sur des thématiques précises, l'insécurité, le narcotrafic, ses réponses aux nombreux règlements de compte qui ont inquiété les Clermontois, notamment l'an passé. Les travaux, la refonte des mobilités dans l'agglo a fait de nombreux mécontents. Résultat, donc, des électeurs qui se tournent vers la droite et vers les insoumis, hein, plus haut que jamais hier, et puis qui se donc détournent du socialiste Olivier Bianchi. Et c'est donc le score le plus faible pour les socialistes depuis 80 ans.
Qu'est-ce qui va se passer d'ici dimanche, Olivier ?
Alors, clairement, pour Julien Bonny, Jérôme, pas de main tendue au RN, fidèle sur ce point depuis le début de la campagne, comme depuis le début de la campagne. En revanche, côté Bianchi, on est en train de réfléchir à finaliser un accord avec la candidate insoumise. Chacun des deux camps qui se sont invectivés régulièrement lors du dernier mandat, assure vouloir contrer la droite. Ce qui se profile, c'est donc une fusion technique avec un retrait des insoumis au profit du maire sortant, avec la garantie pour eux, en cas de victoire, d'avoir un nombre précis d'élus au soir du second tour, et aussi en restant ensuite dans l'opposition. Voilà, l'accord est en cours d'élaboration, on dira. Pas de communication des états-majors ce matin, mais ils ont jusqu'à demain 18h pour déposer la liste.
Merci Olivier Vidal, rédacteur en chef ici Pays d'Auvergne, d'être intervenu dans ce 13-14 en direct. Situation extrêmement intéressante, Mathieu Gallard, avec une lecture là liée à l'actualité, c'est-à-dire que le narcotrafic, l'insécurité, les règlements de compte, on fait la chronique à Clermont-Ferrand ces derniers mois, ça a pu avoir un impact sur le vote. Il y a aussi cette lecture-là qu'on peut faire.
Oui, évidemment, on a des conditions locales qui peuvent être marquées effectivement par des questions d'insécurité. Dans d'autres communes, ça peut être d'autres enjeux, des enjeux de logement, des enjeux de circulation ou de stationnement qui peuvent être très vifs au plan local et qui peuvent jouer effectivement et parfois peser sur le bilan des maires sortants et du coup sur leur score. Là, ce qu'on voit, c'est un très très bon exemple de cette grande difficulté des socialistes qui sont un peu prisonniers des insoumis, même si leur score et leur score est inférieur. Hein. Et ça se retrouve dans énormément d'autres villes. On le voit évidemment à Marseille, mais on le voit à Nantes, on le voit à Limoges, on le voit dans beaucoup de villes, en fait. Soit des villes que les socialistes espèrent gagner, mais ils ont besoin des insoumis, soit des villes que les socialistes espèrent conquérir sur la droite, mais ils ne peuvent le faire qu'avec l'aide des insoumis.
On saura aussi dimanche soir, est-ce qu'on pourra comparer, selon que la liste de gauche est menée par un insoumis ou par un socialiste, si elle est plus performante ou pas ? Est-ce qu'il y a ça aussi qui va se jouer dimanche prochain, Mathieu Gallard, Victoria Koussa.
Plus performante par rapport...
Je ne sais pas si à Limoges, par exemple, c'est Damien Maudet, l'insoumis, qui emmène la liste de gauche, et qu'à Clermont-Ferrand, c'est un socialiste, Olivier Bianchi, on saura, selon le résultat, lequel a le plus de chances dans un second tour, face à la droite ou l'extrême droite.
Ce qu'on pourra peut-être voir, c'est en regardant dans les villes où la FI mène la liste de gauche et dans les villes où les socialistes mènent les listes de gauche, dans quel cas, en fait, ils font le plein des électorats de gauche du premier tour. C'est pas certain que ça soit extrêmement clair d'ailleurs, mais peut-être qu'il y aura une tendance très nette qui se dégagera et qui sera très intéressante en vue de 2027.
Victoria Koussa.
Et puis forcément, les territoires sont très différents. Par exemple, à Toulouse, où on voit que c'est l'insoumis qui arrive derrière Jean-Luc Moudin, qu'on sait que c'est une anomalie, Toulouse. C'est une ville qui vote lors des scrutins nationaux majoritairement à gauche pour LFI. 3 députés sur les 6 circonscriptions sont insoumis. Donc finalement, ça vient aussi un peu corriger cette forme d'anomalie dont je parlais, et ça dépend des territoires. Donc si LFI en force à Toulouse, et un socialiste peut faire mieux à Clermont, ça dépend.
Mathieu Gallard, est-ce que les électeurs suivent les consignes ? Est-ce que ça a le moindre impact ? Est-ce qu'on sait ça ?
Alors les consignes, oui, ça peut quand même avoir un impact. En fait, s'il y a des consignes qui sont très claires, qui sont au niveau national, qui se répercutent au niveau local, oui, ça a un impact. Et on l'a très bien vu quand, aux législatives de 2024, où pour le coup, les consignes à la fois données par les partis de gauche de pratiquer le Front Républicain, mais aussi par le Bloc Central, les Renaissances, on se rappelle de Gabriel Attal par exemple, de pratiquer aussi ce Front Républicain, ça a eu un impact. Dans le cadre d'élections municipales, où là on voit que ça va être beaucoup plus éclaté selon les configurations locales, peut-être moins, c'est certain, mais ça sera intéressant justement de voir dans quelle mesure c'est suivi et dans quelle mesure notamment les fusions parviennent à fusionner réellement dans la pratique des électorats qui peuvent être assez différents.
J'ai une dernière question pour vous, elle est assez simple. Philippe de Paris, y a-t-il vraiment une chance que le Sénat puisse basculer à gauche avec ces élections municipales ?
Je pense que non.
Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément, très certainement en tout cas, un groupe RN au Sénat et peut-être même un groupe LFI, c'est en tout cas l'objectif des Insoumis.
Et ça, ce sera à l'automne. Merci à tous d'avoir répondu aux très nombreux auditeurs qui nous ont écrit et appelé aujourd'hui. Mathieu Gallard, Ipsos BVA, Saisie Grandes Écoles, l'école d'ingénieurs, Victoria Coussa, service politique de France Inter et Jessica Sinti, en direct d'Avignon, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme aujourd'hui de la Terre au Carré ?
Le côté obscur de l'univers.
Rien à voir avec les municipales. Donc, à tout de suite.